Gravillo, l'émission sur la Loire et les rivières de Haute-Loire. SOS Loire Vivante vous informe pour vous permettre de participer activement à la consultation citoyenne à laquelle vous serez invité en 2008. Nos rivières, ça nous regarde, ça vous regarde. L'eau et la forêt. L'eau et la forêt ont une relation très complexe, sujet de notre émission aujourd'hui. Chaque arbre intercepte, évapore et transpire. Le sol emmagasine l'eau, les versants ruissellent. La forêt se trouve ainsi au centre du cycle de l'eau et elle le régularise. Jean-Luc Parel, vous travaillez au CRPF de Haute-Loire. Pouvez-vous nous expliquer l'interaction eau et forêt ?
La forêt, on nous a toujours appris à l'école qu'elle se comportait comme une éponge. C'est-à-dire qu'en cas d'excès d'eau, elle retenait l'eau, donc elle peut avoir un rôle de régulation contre les crues. Et également, elle restitue cette eau quand le reste est un peu humide. Le problème, c'est que ça fonctionne vraiment comme une éponge. Quand l'éponge est sèche, s'il tombe de l'eau dessus, elle commence par ruisseler avant que l'éponge gonfle et conserve un petit peu plus d'eau. Et quand l'éponge est saturée, c'est pareil, l'eau s'évacue et va directement à la rivière. C'est-à-dire que quand dans une pente il y a des arbres, le fait d'avoir ces arbres limite les phénomènes d'érosion, même si l'eau n'est pas retenue. Également, troisième effet, par son système racinaire, l'eau avec les arbres alimente beaucoup plus les sols en profondeur qu'en surface. Donc l'eau suit quand même les racines et arrive à aller très loin, ce qui fait qu'il y a quand même un rôle de stockage de l'eau en forêt. Et d'ailleurs, il y a deux grandes villes dans le monde, au moins à ma connaissance, qui ont acheté des forêts pour mieux maîtriser leur approvisionnement en eau. Il s'agit des villes de Munich et de New York, qui ont mis leur captage d'eau dans des zones forestières où elles mènent une gestion spécifique pour la production de l'eau.
La création de boisements autour des zones de captage des sources permet de lutter contre les pollutions. La capacité épuratoire des écosystèmes forestiers permet ainsi d'obtenir une eau de meilleure qualité. La ville de Munich, en Allemagne, a décidé de produire une eau saine en gérant mieux ses espaces forestiers. Elle a ainsi évité un coût de traitement élevé de l'eau. Aujourd'hui, la ville consomme une eau qui ne subit aucun traitement préalable, mis à part une chloration préventive. Depuis une vingtaine d'années, le service forestier encourage l'agriculture biologique pour lutter contre l'augmentation des teneurs en nitrates et en pesticides. Ainsi, la ville a acquis 1500 hectares de forêt à proximité immédiate des points de captage de la rivière, ce qui permet l'alimentation en eau potable de 80% de la population de la ville, soit près de 1,3 million d'habitants. La forêt produit, ou en tout cas stocke de l'eau, mais la forêt aussi consomme énormément d'eau.
Évidemment, pour produire de la matière qui est le bois, il y a consommation d'eau. Donc il y a quand même un rôle régulateur de la forêt. Effectivement, on a même utilisé la forêt dans certaines régions pour supprimer l'eau. Il faut savoir que les Landes étaient un énorme marécage qui, par reboisement, a été asséché. Donc, effectivement, la forêt a un rôle de pompe, mais je dirais que la forêt a un rôle régulateur sur l'eau. Quand il y en a trop, elle permet d'en éliminer. Alors après, le trop, c'est très subjectif. Et quand il n'y en a pas assez, elle permet d'en stocker un petit peu.
Reboiser, on a plus de consommation d'eau qui serait liée à la forêt et il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Personnellement, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter au point de vue consommation d'eau. N'oublions pas qu'avant les grands défrichements du Moyen-Âge, la France était pratiquement recouverte de forêts et à l'époque, bon, il n'y avait peut-être pas les mêmes besoins en eau, mais je ne pense pas que le problème soit vraiment important. Par contre, il ne faut peut-être pas faire n'importe quelle forêt pour la qualité de l'eau et même pour son régime hydrique. Après ça, Mais c'est un problème de politique d'utilisation du territoire. Effectivement, il y a des gens qui disent dans certains secteurs il y a trop de forêts, dans certains secteurs il n'y en a pas assez. Ça reste très subjectif quand on sait que chez nous on pourrait avoir de la forêt sur 90% du territoire.
S'il y a plus de forêts, il y a moins de zones qui sont dédiées à l'agriculture. Donc il y a certains agriculteurs qui regrettent le fait qu'il y ait reboisement. Quelle est la vision du CRPF là-dessus?
La vision du CRPF pour ce qui est de la production de bois, on produit actuellement largement assez de bois pour subvenir à nos besoins. Donc, qu'on commence par faire une très bonne gestion, même simplement une bonne gestion des forêts que l'on a, on aura suffisamment de bois. Il n'y a pas forcément besoin d'augmenter les boisements. Après, sur les territoires, c'est un problème d'équilibre. Et d'ailleurs, depuis leur création, les CRPF interviennent au niveau des réglementations des boisements pour essayer d'avoir un bon équilibre entre les milieux agricoles et les milieux forestiers. Ça reste délicat parce que il y a le problème de la propriété privée chez nous. Effectivement, il faut que les personnes qui veulent des terres agricoles et qui ont des terres forestières acceptent de faire des échanges ou des ventes de terrain avec les personnes qui ne sont pas agriculteurs et qui voudraient pouvoir gérer leur bois. Donc c'est toute une politique d'aménagement du territoire qui, dans les années 60, s'était très mal passée avec des problèmes d'arrachage de plants et qui maintenant se passe quand même nettement mieux. On collabore avec les chambres d'agriculture. Le problème, c'est qu'on arrête l'extension de la forêt. Mais dans les secteurs où certaines personnes aimeraient voir un retour en arrière avec des défrichements et un retour à l'agriculture, ça peut poser quelques problèmes. Et puis, il faudrait que s'il y a beaucoup de personnes qui ont reboisé à cause des baux agricoles, ça ne leur rapportait rien de louer un agriculteur, donc ils préféraient reboiser. Je suis un fervent partisan des échanges de parcelles, de se dire qu'on n'est pas concurrent, que l'on est complémentaire, l'agriculture et la forêt. Donc, on peut très bien cohabiter, il y a de la place pour tout le monde, et dans certaines zones, on peut faire de la forêt, dans d'autres, il faut faire de l'agriculture. Et un des gros dangers, il faut savoir que la forêt, si on veut la gérer correctement, qu'elle fixe du carbone, il faut l'exploiter, il faut sortir le bois. Les zones en pente, c'est plutôt des zones à dédier aux forêts de protection, aux forêts qui ont un rôle environnemental quand la pente est trop forte. Et à partir des pentes accessibles, on peut avoir des forêts de production.
Qu'est-ce que c'est qu'une forêt de protection?
Alors, forêt de protection, qu'est-ce qu'elle doit protéger, la forêt? Donc, il faut savoir que les forêts sur les pentes évitent l'érosion. Et il y a des zones où il faut gérer les gorges de la Loire, les gorges de l'Allier chez nous et les gorges de toutes les autres rivières. Il faut les gérer d'une manière douce, sans faire de grandes coupes rases, pour éviter des problèmes de ravinement, des problèmes d'érosion après coupe. Donc là, c'est la protection des sols et des cours d'eau, parce que ça évite les crues. Et il y a également la protection d'espèces pour favoriser la biodiversité. Et dans ces zones-là, si on ne peut pas gérer, ben, il doit y avoir également pas mal d'animaux qui vont pouvoir y vivre. Il peut y avoir des plantes qui vont se développer qu'on n'a pas forcément dans des forêts qui sont gérées de manière très intensive. De plus en plus, il y a des personnes qui différencient la forêt en tant que milieu naturel, mélangé, équilibré, avec les plantations forestières, qui elles sont des milieux beaucoup plus artificialisés, avec une seule essence et gérés de manière relativement intensive. Donc, dans l'aménagement du territoire, il faut prévoir d'avoir un petit peu tous les types de forêts. Je reste également persuadé que la diversité de la gestion entraîne également une certaine forme de biodiversité.
L'eau qui transite par la forêt a tendance à s'acidifier. L'acidité des sols forestiers est liée à la dissolution du CO2 émis par les racines, les champignons et les micro-organismes du sol lors de la respiration. L'acidité est également due à l'humus provenant de la décomposition des feuilles et des racines mortes. Cette acidité des sols forestiers transmise à l'eau est toxique et cela peut réduire la biodiversité dans les rivières. Par contre, une forêt réduit la teneur en nitrate dans les eaux, surtout lorsque la forêt est proche du cours d'eau. Cette émission vous a été présentée par SOS Loire Vivante avec le soutien du Conseil Général de Haute-Loire et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci et à bientôt.